al medio municipal o Callao Oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une diplomatie au passage, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre ce dernier numéro des paroles aux auditeurs de ce mois de juin 2014. Elles étaient cinq, les équipes africaines engagées au coup d'envoi de cette Coupe du Monde de Brésil 2014. Et pour la première fois, deux équipes passent la phase des groupes et ont gagné leur ticket pour le 8e des finales. Il s'agit du Nigeria et de l'Algérie. Mais la prestation des autres sélections nationales a été entachée de beaucoup de lacunes. Entre autres, des revendications autour de la prime, des mésententes entre joueurs et staff dirigeants et au bout du compte, de mauvais résultats. Quelle analyse faites-vous de la prestation des équipes africaines à cette Coupe du Monde et que faut-il pour améliorer la gestion du football sur les continents? 081-890-6949, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Gilles Lungembo est à la coordination et la réalisation de cette émission avec Noéla Lizitou, Sylvain Matundou est à la mise en onde. Pierrot et la Méjou vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous aurons d'un moment à l'autre en direct dans cette émission, Monsieur Pierre-Célestin Kabalamon-Ambouy, analyste sportif. Et je le disais tantôt, tout à l'heure, deux équipes africaines se sont qualifiées pour le 8e des finales de la Coupe du Monde de Brésil 2014. Mais la prestation des équipes africaines à cette Coupe du Monde a été aussi entachée de beaucoup de lacunes pour d'autres sélections nationales. Le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire qui ont été éliminées. Mais ces éliminations se sont accompagnées des conflits entre joueurs, staff technique, des revendications des primes, de retard de versement des primes. Au côté de tout cela, des mauvais résultats. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion du football sur le continent? Mais d'abord, nous commencerons par l'analyse que vous faites de la préparation de ces équipes nationales à la Coupe du Monde 2014 et dans l'avenir, qu'est-ce qui doit être fait pour gérer ce football. Nous avons Franck qui nous appelle de Kinshasa et la Guiloa qui est à Kalemie dans la province du Katanga, mais Eddy est à Lubumbashi dans la même province. Donc, commençons avec vous, Franck. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Il y a à côté de trois équipes qui ont été éliminées et toute la déception pour les Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi l'exploit de l'Algérie pour la première fois qui s'est qualifiée en huitième des finales, y compris aussi la prestation du Nigeria, deux équipes africaines. Alors pour vous, quelle analyse vous faites de la participation de ces équipes parce que nous parlons qu'il y a de la phase de groupe, la compétition continue jusqu'à ces mi-parcours. Quelle analyse vous faites de la prestation des équipes africaines?
Merci bien, Pierrot. Je commence d'abord par féliciter nos deux équipes ici, l'Algérie et le Nigeria, qui se sont qualifiées quand même au niveau du huitième de finale. Pierrot, selon moi, je suis en train de regarder qu'il y a trois éléments qui font que les équipes africaines ne puissent pas bien marcher au niveau de la Coupe du Monde. En premier lieu, la faute incombe aux athlètes. Nos athlètes, les joueurs précisément, ne veulent pas jouer pour leur patrie. Ils n'ont plus l'amour de patrie. Regardez d'abord ce qui s'est passé avec les joueurs des Cameroun, l'équipe que tout le monde attendait. Cameroun, tout comme Ghana, les joueurs cherchaient d'abord leur prime. Moi, je me suis posé la question, pourquoi les joueurs qui jouent d'abord, quand on joue au niveau de l'équipe nationale, on doit d'abord aimer son pays. Les primes viennent après. Vous avez vu vous-même le président ivoirien Alassane Ouattara. Juste quand les joueurs ont joué le deuxième match, il a doublé leur prime à 44 000 euros par joueur. Mais les joueurs des Cameroun, ce qu'ils ont fait comme, ce qu'ils ont affiché comme attitude, les joueurs professionnels, en réclamant d'abord le prime avant d'aller jouer, ils étaient déjà démotivés.
Mm-hmm.
Et les joueurs, les joueurs de. Ghana, la même chose. Et pour moi, je dis que la première faute incombe aux athlètes qui n'ont pas l'amour. Ils ont copié les habitudes qui étaient chez nous ici à la RDC. Vous connaissez très bien que la RDC n'évoluait pas parce qu'à un certain moment, les joueurs disaient seulement bon mouké, bal mouké. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même les grandes nations de football au niveau africain commencent à copier cette mauvaise habitude. Deuxième point, c'est l'organisation dans différentes fédérations de football au niveau africain. Nous devons prendre des histoires au sérieux parce que le football s'organise à partir de la base pour avoir une bonne équipe et aller défendre. C'est ça la difficulté. Et troisièmement, l'État aussi doit prendre ça en charge au niveau des écoles, qu'on fasse comme à l'époque là, où le football était organisé au niveau même des écoles primaires et écoles secondaires. Là, on aura une bonne équipe ou des bonnes équipes qui peuvent aller nous défendre au niveau des nations. Parce que sinon, je peux prendre le cas de notre pays, c'est depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans, la RDC n'a jamais mis ses pieds à la Coupe du Monde. Et moi, je regrette tellement pour un pays comme Cameroun, réputé grande nation de football, et que les joueurs, au lieu de se donner, d'aimer d'abord leur pays, les joueurs privilégient leur prime. Voilà au moins ce que j'ai pu faire comme analyse sur ce point-là.
Merci beaucoup Franck. À côté de votre analyse, il y a aussi des pistes et des solutions. Il y a les problèmes d'abord de patriotisme, des lapsus des joueurs eux-mêmes dans la revendication de leur prime. Mais quand on parle de l'absence des primes, on l'a vu avec les Ghana, la prime qui est venue après, tout ça, les joueurs ont joué le premier match sans savoir qu'ils allaient être payés. Voilà autant de problèmes. C'est là aussi entre en ligne les comptes, hein, des programmes, des problèmes organisationnels, n'est-ce pas, au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des différents ministères qui gèrent le sport à travers l'Afrique, mais il y a la responsabilité de l'État dans la préparation des équipes, hein, qu'on ait le football d'âge qui permette à ce qu'on puisse avoir des équipes nationales bien formées et capables de pouvoir prester au niveau de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Franck. Ladiloa, vous êtes à Kalemi dans les Katanga. Bonjour.
Oui.
Ladiloa, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle analyse vous faites à mi-parcours de la prestation des équipes africaines à ce mondial?
Merci, M. Pierrot. Je pense qu'ici, il y a deux problèmes. Il y a la situation d'abord de l'amour des patries et aussi la situation de la prime. Les joueurs des pays africains, ils ignorent au moment quand ils présentent les pays au niveau du mondial. Et ils oublient qu'ils ont une charge de presser toutes les nations africaines. C'est pourquoi. Et je pense que la situation est aussi à tous les deux niveaux, du côté des athlètes et aussi du côté aussi de tous les responsables des différents pays, et soit des dirigeants. C'est pourquoi, je pense que la situation de nos équipes, il faut savoir que nous, les Africains, nous venons de loin. Malgré tout ça, mais il faut voir aussi la manière dont le Ghana a joué aussi l'Algérie et nous sommes en train aussi de féliciter l'Algérie et l'autre aussi qui est qualifié.
Le Nigeria. Oui.
C'est pourquoi moi je pense qu'il y a un principe sportif, par des sports qui dit laisser le football au footballeur. Ça signifie quoi? Je pense que lorsque nous allons mettre un jour à la tête de toutes les fédérations africaines, les anciens footballeurs des différents pays, c'est que le nôtre ici la RDC. Parce qu'un footballeur connaît aussi le souci du football. Je pense que quand on s'engagera aussi de mettre un footballeur à la tête, je pense que tout ira bien. C'est pourquoi nous demandons aussi à tous les athlètes et à tous les dirigeants, lorsqu'il y a une préparation, il faudrait qu'on tienne compte d'abord de l'amour, de la patrie et aussi de la prime. Lorsque vous allez entendre les joueurs qui réclament, dans les pays étrangers, ils parlent de la prime. Au moins, ils sont sortis dans leurs pays respectifs. Pourquoi pas parler réclamer bien après.
Oui, mais la Guinée, s'il vous plaît. Oui, mais s'il vous plaît, la Guinée.
Dans notre pays aussi, la FDC.
Oui.
Un jour, il y aura un footballeur à la tête de la CECOFA. Là, la FDC aura la chance parce que le footballeur connaît le souci du football. Je vous remercie, M. Perrault. Bonne continuité de l'émission.
Merci beaucoup, Ladiloa. Vous pensez qu'il y a d'abord le problème de l'amour de la patrie, la prime que les joueurs doivent avoir, mais il y a aussi ce problème des primes. Hein. Tout cela relève aussi de la gestion opaque des différentes fédérations. Et vous souhaitez impliqués, les fédérations soient vraiment dirigées par les footballeurs, les anciens footballeurs, les gens qui comprennent les soucis, ce qui doit être fait pour améliorer le football. Vous pensez que c'est la même chose avec la RDC? Si jamais la RDC pouvait avoir un ancien footballeur comme président au niveau de la fédération, ça peut permettre de résoudre les problèmes. Et sinon, là, Franck a évoqué notre absence au mondial depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes devenus par rapport à la Coupe du Monde? Et vous pensez que c'est ça qui peut amener l'amélioration? Eddy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre.
Mais il y a beaucoup de gens, Eddy, si vous avez suivi, hein, les amis condamnent l'attitude des joueurs qui revendiquent la prime avant d'aller jouer. Mais est-ce que cela aussi ne résulte pas de la crise de confiance qui s'est installée entre les joueurs et les membres des fédérations? Parce que vous savez, même au Cameroun, on a évoqué qu'il y a beaucoup de cas d'opacité dans la gestion des primes. L'argent qui sort au niveau du trésor public, ce n'est pas l'argent qui arrive entre les mains des joueurs. Et qu'il y a déjà un problème de crise de confiance qui s'installe, n'est-ce pas, entre les joueurs et les staff technique, la fédération, et cela ne peut pas permettre à ce que les joueurs aillent jouer avec garantie qu'ils pourront toucher leur prime, ils pourront être payés. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour résoudre tout cela et permettre à ces équipes quand même de présenter un bon visage au prochain mondial, Eddy?
Merci beaucoup, M. Pirot, pour la parole, parce que moi, j'interviens ici pour jouer le rôle d'avocat des joueurs. Moi, je plaide, moi, je suis du côté des joueurs. Comme vous l'avez si bien dit, il y a un problème de confiance. En Afrique, lorsque le gouvernement promet, il ne réalise pas. Les promesses des Africains, c'est comme des mirages. Donc, vous n'aurez pas ça comme prévu. C'est la raison pour laquelle les Africains exigent qu'ils soient payés avant qu'ils soient éliminés. Les autres nations européennes et asiatiques, elles attendent l'élimination pour rentrer dans leur pays et toucher leur prime. Tandis que les Africains se disent, si nous sommes éliminés, en rentrant dans notre pays, il y aura des promesses. Vous savez, dans notre pays, on a promis aux joueurs qui avaient remporté la Coupe d'Afrique 68-74 un petit salaire de $500 par mois. On a payé ça trois fois seulement et depuis lors, on ne paye pas. Dernièrement, ici, on a demandé aux agents de la FNCC de reprendre le boulot. On va leur donner 3 mois. On n'a payé qu'un mois. Les 2 autres mois, ils attendent. Donc, c'est le problème en Afrique. Il y a un problème de confiance. Et parce qu'il n'y a pas cette confiance, tous les pays doivent bien se préparer. C'est-à-dire, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils savaient bien que les équipes devaient jouer la Coupe du Monde. Il fallait préparer tout, y compris les primes des joueurs. Alors, moi, je me dis, la faute n'incombe pas aux joueurs, la faute incombe aux dirigeants. Parce qu'ils ont sorti l'argent de préparation. Ils ont sorti l'argent de logement des athlètes pendant la préparation. Pourquoi ils n'ont pas sorti directement l'argent des primes? Même ici, chez nous, j'ai appris, dernièrement, avec tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, j'ai suivi M. Constant Marie dire, dorénavant, au Congo, on va commencer à payer la prime après. Mais qui peut croire à cela? Moi, je demande au gouvernement, aujourd'hui, nous savons que nous aurons 6 matchs à jouer, éliminatoires pour la CAN de l'année prochaine, d'ici le mois de septembre. Ils savent ça depuis le mois de mars. Mm-hmm. C'est le moment pour eux de préparer l'enveloppe, de préparer aussi la prime des joueurs. Il ne faut pas seulement d'abord sortir l'argent des billets d'avion et des frais d'hôtel des joueurs et demander maintenant aux joueurs d'attendre le match pour leur donner la prime. Ce qu'il faut se faire, il faut sortir l'argent une fois pour tous, au lieu de faire signer le ministre 2 fois. Sortir d'abord les frais d'hôtel et après sortir maintenant la prime. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mm-hmm. Deuxième chose, il y a aussi le problème d'entraîneur. Parce que moi, je me dis, la Côte d'Ivoire a été éliminée parce qu'ils ont eu un entraîneur novice. L'entraîneur venait à peine de terminer ses études d'entraîneur. Il n'avait jamais entraîné même une équipe de 3e division, même là en Europe, directement le bombarde, entraîneur, disons, sélectionneur d'une équipe nationale. Et laquelle? L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est une grande équipe. En tout cas, moi, je me dis, ça, c'était une erreur. Et je sais que la population ne faisait que dire, elle ne faisait que condamner l'attitude des membres de la fédération qui avaient porté leur frère sur Sabri Lamouchi. Il fallait un entraîneur calibré. Et ici, d'ailleurs, j'aimerais citer votre consultant en matière sportive, monsieur, disons, l'entraîneur Bruno Blanc. Mm-hmm. Il a dit le match que la Côte d'Ivoire réalisait contre, dans le dernier match qu'il arrivait là, contre la Grèce, il a parlé d'un coaching approximatif. Vous voyez un peu? Donc, nous aussi, nous n'avons pas encore d'entraîneur. Mm-hmm. Alors qu'on fasse un bon choix, un entraîneur qui a quand même une expérience. Merci beaucoup pour la parole.
Merci beaucoup, Eddy, pour toutes ces précisions. Vous pensez que le problème, l'attitude des joueurs, quand ils réclament la prime, c'est pas mauvais, mais c'est parce que beaucoup de promesses ne se réalisent pas en Afrique. Hein. Mais quand vous revenez, par exemple, au choix des entraîneurs, c'est un débat éternel, n'est-ce pas, au Cameroun. On sait des fois que vous avez un entraîneur préféré par le ministre des Sports, qui n'est pas préféré par la fédération, ou soit c'est la fédération, ou soit c'est un groupe d'anciens joueurs qui préfèrent tel entraîneur. Il y a beaucoup de problèmes. On a vu la prestation de la Côte d'Ivoire avec Sabri Lamouchi, que ce soit à la CAN, que ce soit au Mondial. Vous pensez qu'il n'était pas à la hauteur. D'ailleurs, si vous avez suivi les joueurs Gervinho sur Radio France Internationale, il a dû critiquer aussi les changements opérés par l'entraîneur à la fin du match contre la Grèce. Il a estimé que les matchs étaient sous pression parce qu'avec déjà à ces niveaux, la Côte d'Ivoire pouvait se qualifier avec les résultats qu'ils avaient. Et quand on a opéré les changements, il y a des joueurs inexpérimentés qui sont entrés. Et c'est un joueur qui n'a pas d'expérience qui a pu concéder le pénalty qui a éliminé la Côte d'Ivoire alors qu'on était déjà à la fin du match. Mais vous estimez aussi que ce soit pour la RDC qui doit aussi opérer un choix judiciaire pour l'entraîneur, ça doit être important quand on a besoin de préparer que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Eddy, pour toutes ces précisions. Dieudonné, vous êtes à Wali Kalé, c'est dans la province du Nord Kivu. Bonjour, Dieudonné.
Oui, bonjour, cher. Bonjour, vous êtes à la radio Capé.
C'est Pierrot Dieudonné. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a ce problème de la gestion de nos fédérations, ce problème de l'attitude des joueurs. Mais au-delà du fait qu'il y a eu quand même ces discussions autour des primes, on a vu quand même que les joueurs n'ont pas eu de bonnes attitudes. On a vu des joueurs camerounais presque se bagarrer sur le terrain en plein match. Ce n'est même pas dans le vestiaire. On a vu aussi les conflits, les menaces proliférer sur les staffs techniques par rapport aux joueurs ghanaiens. Mais il y a aussi ces attitudes des joueurs. Pensez-vous que le moral des joueurs peut avoir beaucoup sur les résultats de ce mondial 2014?
Voilà, merci beaucoup pour m'avoir la parole, monsieur Pierrot. Bon, moi je commencerai d'abord à dire ceci. Il faut qu'il y ait d'abord une meilleure préparation au niveau des nations. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand vous me parlez de bagarre quelque part de la part des joueurs, de certains joueurs, vous trouverez qu'il n'y a pas vraiment une responsabilité solide. Donc, que la fédération, donc je vais te parler d'abord de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, donc les trois nations-là déjà éliminées pour nous Africains. Donc, il faut qu'il y ait une responsabilité solide au niveau de la fédération. Mm-hmm. Parce que s'il y a incompréhension au niveau de la fédération, je pense bien que ça n'allait pas marcher pour les joueurs. Et vous verrez, c'est comme si une famille, monsieur Pierrot, dans une famille où le papa ne prend pas sa responsabilité, est-ce que pensez-vous que la famille va bien vraiment, va bien vraiment s'orienter, va mieux vraiment partager les biens de la maison? Donc il y aura toujours des compréhensions. C'est comme si moi je me dis ceci, que il faut que donc la fédération s'organise et appelle les joueurs avant l'État, qu'on prépare la grande compétition telle que la Coupe du Monde. Vraiment, je ne pense pas si on va le faire vraiment comme ça, comme nous venons de le vivre. Et je pense bien que nous suivons les matchs ici, moyennant le petit écran. Il y a ceux qui se disent qu'ils n'allaient plus suivre les matchs, parce que vraiment, c'est honteux. Et ce que moi je prépare, c'est quoi? Je vais dire ceci. Donc, que les gouvernements d'abord des pays africains prennent leurs responsabilités. Et il faut qu'il y ait une meilleure préparation avant le temps. Et ça, je le dis pourquoi. Parce que je vais donner un exemple de notre pays, nous les Congolais. Bon, même s'il y a une grande compétition, vous verrez qu'il n'y a pas d'argent. Donc, pour le fond de l'argent, vraiment, c'est pas autre chose là-bas. C'est comme si notre gouvernement ne veut pas vraiment encadrer donc l'acte sportif dans notre pays. Donc, vous trouverez qu'il faut disponibiliser l'argent avant l'État, les sélectionneurs aussi. Bon,
j'avais parlé quand j'étais avec l'autre là, les Français qui étaient partis. Bon, il appelle le joueur en retard, les joueurs viennent, il y a d'autres qui arrivent en retard. Bon, vous voyez que, est-ce que pouvez-vous vraiment penser qu'il y aura une meilleure résultat à ça? Je ne pense pas. Est-ce pourquoi il faut que d'abord les gouvernements prennent les responsabilités, encadrent les joueurs avant les temps, parce que ce n'est pas la fin du monde, hein? Ce n'est pas la fin du monde. Bientôt ici, il y a autre Coupe du Monde. Donc, il faut qu'il y ait une préparation. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui était fait, bon, du bien ou du mal, pour corriger, pour que demain aussi, puisque nous ne sommes pas à la fin du monde,
demain,
c'est tout le Congolais, monsieur voilà. Pierrot.
Merci beaucoup, Dieudonné. D'ailleurs, quand vous dites qu'il faut s'inspirer, n'est-ce pas, des échecs du passé, c'est quand on regarde l'équipe du Cameroun. On a vu l'élimination du Cameroun en 2010 au Mondial, la Côte d'Ivoire aussi. Et quand une équipe sort encore, n'est-ce pas, en face des groupes, on se rend compte qu'on ne tire pas vraiment les leçons du passé parce qu'on a vu le même problème. On a vu le conflit au niveau les égos entre les joueurs, une équipe presque divisée. Alexandre Song avec une de ses équipes. Il y avait d'un côté Samuel Eto'o avec ses équipes. Vous savez qu'avant la Coupe du Monde 2010, il arrivait même que les joueurs ne mangeaient pas ensemble au restaurant. Il y avait des casses au niveau de l'équipe. Alors, on n'a pas tiré les leçons de cet échec, de cette attitude en 2010 pour pouvoir corriger en 2014. Mais vous avez évoqué quelque chose d'important, ce qui a été aussi dit par Eddie. Il y a déjà le calendrier connu. On sait déjà qu'on va jouer tel match, La RDC bientôt s'élance dans les éliminatoires pour la CAN 2015. C'est bien connu. Alors, tout doit être préparé, budgétisé avant. On a vu les joueurs ghanéens commencer d'abord à jouer. La prime va venir après. Ils ont commencé aussi à revendiquer avant le dernier match. Alors, on a dû envoyer, nous avons appris que l'argent a été convoyé rapidement par avion. Voilà. Et pourtant, on savait déjà que l'équipe est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Voilà autant de problèmes qui doivent être réglés en amont. Et cela demande la responsabilité, n'est-ce pas, du ministère des Sports, ceux qui gèrent le football sur les continents. Merci beaucoup. Jean-Pascal, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. On a besoin quand même qu'on puisse avoir des équipes qui se défendent bien à la Coupe du Monde, que ce soit la RDC aussi qui va bientôt s'engager pour la CAN 2015, mais il y a aussi le Mondial 2018 que nous devons préparer. Eu égard à cette leçon que nous tirons de ce Mondial, qu'est-ce qui doit être fait, Jean-Pascal?
Avant qu'il salue tous les auditeurs de la radio Okapi, et nous savons très bien qu'il y a Coupe du Monde et un Coupe d'Afrique des Nations. Le problème se pose au niveau d'abord de l'organisation. De l'organisation, nous voyons surtout d'abord les joueurs, leur organisation, et nous voyons aussi l'organisation au niveau des nations. Et aussi, nous avons autre problème qui se pose juste sur les joueurs locaux et d'autres professionnels qui jouent dans d'autres clubs du monde. Et il y a aussi le problème aussi des sélectionneurs. Les sélectionneurs ne se donnent pas le temps de préparer les joueurs locaux et les joueurs internationaux ensemble pour mener un bon jeu. Voilà ce qui entraîne d'autres pays à défaite. Mais je souhaiterais en fait que cette organisation commence d'abord au niveau de la nation, de la République, et puisse se préparer et aussi et soutenir les écoles pour de tels jeux. Alors, juste après, on va bien sélectionner les joueurs. On ne peut pas attendre que non, demain, il y a Coupe du Monde ou demain, il y aura Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on se prépare pour, dira, 2 mois ou 3 mois. Non, les joueurs sont censés défendre leur nation. Et même au niveau de l'Afrique, nous les Africains, nous sommes censés de défendre notre continent Afrique. Alors, ici, en Afrique, au niveau de l'Afrique, au niveau d'autres nations, vous verrez qu'il y a Coupe du Monde, et il y a Coupe d'Afrique des Nations, on commence à se préparer brutalement et précocement, et c'est là qui nous entraîne à des défaites. Et aussi, la rémunération aussi des joueurs. Et les joueurs sont très mal aussi, soutenus, leurs primes, quoi qu'il en soit. Il y a aussi le problème même aussi des transports. Vous verrez que et quand il y a transport, il y a aussi des difficultés qui s'opposent pour que les joueurs puissent atteindre les stades avant l'état. Alors ça décourage beaucoup plus aussi les joueurs. Et aussi,
vous trouverez que les sélectionneurs, je ne sais pas, peut-être ils préparent, ils sont en train de sélectionner les joueurs par sentiment. Vous allez trouver, il y a d'autres joueurs qui sont au niveau des nations, des joueurs locaux. Ils jouent très bien plus que les professionnels. Mais on n'arrive pas à les classer pour les jeux. Alors, c'est ce qui nous entraîne, nous les Africains, à défaite, et nous les Congolais, toujours à défaite. Je ne sais pas à peu combien d'années que nous allons présenter un jeu au niveau du monde. Alors, c'est beaucoup les questions.
Merci beaucoup, Jean-Pascal. Vous avez évoqué beaucoup de choses, ce qui doit être fait. Et quand vous avez évoqué le problème de l'entente entre joueurs locaux et les professionnels, parce qu'on voit des fois des changements que les entraîneurs opèrent, vous avez un joueur, peut-être ça dépend du niveau du match et la capacité mentale de ces joueurs de pouvoir supporter la pression de l'équipe. Des fois, ils commettent des erreurs, mais il y a aussi des joueurs qui évoluent sur le plan local qui sont très très bons, hein, n'est-ce pas, qui se défendent mieux plus que des joueurs. Alors, tout cela doit être travaillé en avance par les sélectionneurs, que ce soit les primes, que ce soit les transports, que ce soit tout ce qui touche, n'est-ce pas, à la phase finale d'une compétition doit être préparé en avance plutôt que réunir les moyens en dernière minute et pouvoir tomber dans ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous avons Claude qui est à Isiro, en province orientale. Claude, bonjour.
Bonjour, JR et tous les fidèles auditeurs de la fréquence de la paix.
On vous écoute, Claude, mais quand même, à côté de ces déceptions que nous avons eues pour le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie et le Nigeria qui se sont qualifiés, quand même une bravoure, deux équipes vont jouer le 8e des finales. Alors, en regardant la prestation de ces équipes et les choses que nous avons connues, alors sur quoi devons-nous travailler, même pour permettre à ceux qui sont qualifiés de pouvoir aller un peu plus loin dans cette compétition?
Merci pour la parole, J.R. Je pense que c'est tout ce que les autres ont dit. Primaire, encouragement, tout ça, sélection, organisation interne. Je pense plus qu'il fallait que nos sélectionneurs tiennent aussi compte de la jeunesse, qui ne sélectionne pas seulement les joueurs renommés, mais qui ne fassent plus bien. Et encore aussi, il fallait aussi que, d'après moi, d'après mes ambitions et mes envies, je pense peut-être qu'il fallait aussi que des sélectionnaires, puisque la fin qui avec les sélectionnaires européens, américains, n'iront pas très loin. Ils sont toujours, il y a toujours des bateaux qui sont mis dans les roues, en mi-chemin. Je pense peut-être qu'il fallait aussi que l'Afrique elle-même prenne conscience et qu'il y ait des dirigeants africains qui puissent coacher les équipes africaines. Cela nous pourra quand même nous amener à faire un pas d'avance.
Voilà, merci beaucoup, Claude. Vous estimez d'abord qu'il y a un problème. Beaucoup de sélectionneurs ont tendance à recourir à des joueurs qui portent nom, des célébrités, mais qui malheureusement n'ont pas des résultats sur terrain, des résultats escomptés. On a vu avec l'équipe du Cameroun, hein, beaucoup de célébrités, mais bon, on a vu ce que cela a produit comme résultat. Mais vous posez aussi le problème des sélectionneurs expatriés. Vous dites que la plupart des cas, quand on a des entraîneurs qui viennent de l'extérieur, il y a un problème de collaboration avec les autres membres de staff national recrutés localement. Il y a beaucoup de fois des conflits, ce qui ne permet pas à ces entraîneurs de pouvoir bien travailler. Vous souhaitez que les Africains soient capables de former des entraîneurs africains qui puissent prendre en charge les équipes nationales pour les grandes compétitions. Merci beaucoup, Claude Théophile. Vous êtes à Kananga, vous gardez la ligne, Claude, et puis Michel qui est à Matadi. Je rappelle encore que deux équipes africaines se sont qualifiées pour le 8e des finales, le Nigeria et l'Algérie, dans cette Coupe du Monde 2014. Mais à côté de cela, à la fin de la phase des groupes, on a vu aussi des grandes déceptions pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Des équipes minées aussi par des conflits, des réclamations des primes, des bagarres, des mésententes entre joueurs et staff national. On a vu tout cela, les résultats. Quelle analyse vous faites de ces parcours de ces équipes, mais aussi ce qui doit être fait pour résoudre le problème de la gestion de football africain? 081-899-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
3, 2, 1, 0!
À l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Radio Okapi diffuse ce lundi 30 juin le concert de Lokwakenza. Vivez à partir de 19h, heure de Kinshasa, le concert du 20e anniversaire de carrière solo de Lokwakenza, enregistré le 1er juin dernier à Kinshasa. avec comme invité Richard Bona, Sarah Tavares, Fali Ipupa, Jean-Bouba Kalala et d'autres. La fête de l'indépendance, ce lundi, sur Radio Capi, avec Lokwa Kenza et ses invités. Un rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes à partir de 19h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mairie.
Ça rime bien, le football et la musique. Et Théophile, vous êtes à Kananga, au Kasso Occidental, bonjour.
Bonjour Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Mm-hmm. J'interviens pour d'abord féliciter la plupart des intervenants pour ce qu'ils ont relevé comme défis pour que nos équipes puissent aller plus loin. Moi, personnellement, je constate qu'il y a trois choses qu'il faut tenir compte dans cette analyse. La première, c'est le manque du patriotisme de nos athlètes. Et quand ils vont défendre les couleurs nationales, ils ne tiennent pas compte qu'ils représentent leur nation, leur population, leurs autorités. Donc, ils mettent au devant de la scène leurs intérêts, c'est-à-dire les primes. Deuxièmement, il y a le problème de la planification. Nous mettons en place nos équipes d'une manière active. Lorsque les sélectionneurs étrangers qui viennent dans notre pays veulent avoir des joueurs qui vont faire partie de l'équipe nationale, ils les prennent par hasard. Mm-hmm. Peut-être pour les exploits du moment, alors qu'il y a des jeunes gens qui sont capables d'aller plus loin et qui ne mègent pas le jour de la sélection. Troisièmement, il y a le problème de financement. Notre football n'est pas tellement financé, n'est pas tellement soutenu, accompagné avec les moyens financiers suffisants. Donc je pense, pour que nos équipes puissent aller plus loin, il faut d'abord que nos athlètes sachent qu'ils sont, ils appartiennent à une nation. Ils ont un devoir de représentation de leur nation. Deuxièmement, il faudra que les dirigeants, par exemple chez nous, la FECOFA, puisse préparer l'équipe nationale dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas qu'il faut sélectionner les gens par hasard. Troisièmement, il faut que notre football soit sponsorisé. Est-ce qu'en Afrique, les sociétés, les entreprises financent-elles le sport? C'est ça le problème. Moi, je pense qu'on trouve des solutions là, dans ces trois points de vue. Je crois que notre football peut aller plus loin. Voilà mon avis.
Merci beaucoup Théophile. Il y a le problème du patriotisme qu'il faut cultiver chez les joueurs, la planification, le financement. Et d'ailleurs, on a vu quand les Léopards juniors ont été éliminés dernièrement ici à Kinshasa, 2-0 par les Malawi, je crois bien. Hein, on a vu comment tout le monde s'est plaint, que l'équipe n'a pas été préparée. C'est de la veille au soir qu'on a vu, on a commencé à chercher des jeunes, il n'y a pas de sélectionnaires, il n'y a pas d'argent, tout cela. C'est ça les problèmes qui se posent vraiment dans l'organisation du football sur les continents. Et on doit tenir compte de tout cela. Si on veut vraiment voir les équipes nationales le mieux se comporter dans la Coupe du Monde, quand on a 5 équipes alignées, qu'on ait chaque fois une équipe et cette fois-ci deux, des fois on n'en a pas au second tour, c'est vraiment un problème. Il faudrait qu'on puisse tenir compte de la planification et un financement conséquent pour voir le football évoluer. Merci beaucoup Théophile. Michel, vous êtes à Matadi dans la province du Bas-Congo. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Julien.
C'est Pierrot Michel. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a quand même ceux qui se sont mieux comportés, tant mieux que mal, pour se qualifier. Mais il y a cet éternel problème des célébrités, des grandes équipes qu'on espère, mais qui après un moment disparaissent parce qu'il y a trop de conflits qui minent le football sur le continent. Mais il y a aussi cette absence prolongée de la RDC dans la phase finale de la Coupe du Monde, eu égard à ce qu'on peut tirer comme leçon pour cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer, Michel?
Moi, je pense que les encourages d'abord des pays africains, ce qu'ils ont pu donner dans ces Coupes du Monde. Moi, je ne peux pas condamner les équipes africaines. En tout cas, jusque-là, on sent l'engouement, on sent cette volonté des gens, des athlètes qui veulent aller. je ne partage pas les mêmes points de vue que les Palestiniens. Vous savez, nous voulons chaque fois nous diminuer. Et tous les continents qui sont dans ces pays de Brésil, vous n'avez pas entendu, dans les continents qui sont là, parler des problèmes d'argent. Et nos autorités doivent éviter ce système. Vous savez, aujourd'hui, la motivation, c'est quelque chose qui fait, et c'est lui qui peut donner, qui puisse donner les meilleurs de lui-même. Mais je ne sais pas si sans motivation, on ne peut donner rien. On ne peut donner rien. La motivation est trop importante. Rappelez-vous, sans la motivation qu'avait donnée les présidents de la République, je ne pense pas qu'on aurait dû remporter cette coupe de la chance que nous avons eue. Vous avez dit que le chef de l'État a intervenu à dernière minute. Et vous avez dit les résultats. Donc il faut laisser nous faire croire qu'il y a l'argent, mais allez d'abord jouer. Si vous gagnez, alors que nous allons payer. Mais après, les athlètes sont fatigués. Avec les systèmes, vous allez les voir dès qu'ils vont gagner, et après, il n'y a rien. Je crois que nous devons tous nous emballer dans cette marque de diriger qui n'est pas bonne. De nuit. Pourquoi? Lorsqu'on voit le comportement, par exemple, de l'équipe ivoirienne, moi je crois que c'est l'équipe qui nous a fait de la joie. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a perdu, ce n'est pas de sa faute. Oui, nous avons parlé de l'entraîneur, nous avons parlé, mais l'arbitre aussi a été fautif. Et je crois que nous avons les autorités qui sont au niveau continental qui ne devaient pas laisser des points comme ça. Parce que tout le monde, même les chaînes internationaux, ont parlé de ça. Et si la Côte d'Ivoire a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Vous avez dit avec les joueurs ivoiriens, avec la fédération au niveau de leur continent, les joueurs, allez maintenant, il y a des peines qui sont tombées. Et je crois que notre, au niveau continental, c'est à tout aussi de poursuivre cet arbitre. Il a mal fait, on ne peut pas parce qu'aujourd'hui l'Afrique est subie à une injustice. Je ne sais pas si c'est la FIFA qui organise tout ça, ou l'arbitre de sa propre volonté, pour que la Côte d'Ivoire puisse tomber. Non, la Côte d'Ivoire a donné. Hein? Si la Côte d'Ivoire a perdu, oui, il y a une existence, mais à 80%. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a connu cette défaite, c'est vraiment l'arbitre. Et ça, nous ne pouvons pas laisser comme ça. Nous avons les autorités au niveau continental qui devaient poursuivre ça. Après, cet arbitre aussi soit condamné. Parce que l'arbitre aujourd'hui, on les sent. Aujourd'hui, vous voyez les Nigériens. En ce qui concerne les Congo, notre pays, bon, moi je crois que nous devons suivre l'exemple de la France. Rappelez-vous de ce que la France avait connu en Afrique. Premier pays disqualifié. Mais après, il y a eu des états généraux. Vous avez dit les têtes tombées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même équipe. Ce n'est plus la même équipe. Chez nous, ici, il y a des effets allés. Il y a tous ceux qui sont là. Vous travaillez bien ou pas, vous restez là. Non. Et vous voyez maintenant qu'aujourd'hui, la France, c'est une nouvelle équipe. Parce qu'il y a des nouvelles directives. Donc aujourd'hui, la France, c'est la joie.
Voilà. Merci beaucoup, Michel. Il y a une prise de conscience. Vous estimez que les équipes africaines ont donné ce qu'ils pouvaient donner de maximum pour la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous dites que la Côte d'Ivoire a beaucoup donné, l'équipe a bien joué, mais vous êtes très très critique envers l'arbitre de ces matchs pour ce penalty accordé à la Grèce alors qu'il restait presque une minute, n'est-ce pas, pour la fin de la rencontre. Vous estimez que la faute ne pouvait pas mériter un penalty et que les dirigeants pouvaient protester auprès de la FIFA pour savoir pourquoi cela a eu lieu, mais pour la RDC, il faudrait voir s'inspirer des échecs du passé pour voir comment s'organiser les états généraux. On l'a vu en France, il y a eu quand même des réunions. Aujourd'hui, la France présente une équipe différente de celle de 2010. Les attitudes ont beaucoup changé. Merci beaucoup. Nous avons déjà en ligne notre invité, M. Pierre Célestin Kabalamonamboui. Mais avant de lui accorder la parole, permettons à Jean-Baptiste, qui nous a appelé des Ouachi en province orientale, de pouvoir placer les mots. On va revenir à lui pour aussi faire un commentaire par rapport à cette prestation. Jean-Baptiste, vous êtes à Ouachi en province orientale. Bonjour.
Et bonjour Pierrot, bonjour la chef de la Ducati, et bonjour à mes amis qui m'étudent depuis les Hirondelles. Mes analyses concernant le Coupe du Monde qui se joue au niveau du Brésil, En premier, je voulais saluer tous les équipes africaines qui ont représenté la France de notre continent au niveau mondial. Et parce que ça, s'il faut voir ce cas, nous pouvons d'abord encourager les joueurs qui ont présenté les équipes africaines parce qu'ils ont été démoralisés depuis 10 ans avant. C'est lui qui est un peu démoralisé à contraire des causes. Nous voyons qu'il devrait même passer déjà au niveau du Brésil bien avant, mais il prenait encore concernant les cas de prime et même le frais du voyage. Et c'est pourquoi nous demandons aux autorités, surtout au ministre du Sport, de voir ces cas bien avant. Et puis, s'il faut encore parler des sélections des joueurs, là, c'est bien. Mais une chose que nous voyons, il y a les joueurs internationaux, par exemple, qui évoluent dans des clubs européens, qui sont encore là et puis, qui ne viennent pas faire les préparations avec les joueurs locaux ici. Et c'est ce qui entraîne aussi l'échec pour nos équipes africaines et de Renavar. Il faut sélectionner les joueurs, il faut tenir compte de nos joueurs qui évoluent ailleurs, plutôt qu'ils reviennent au pays de Renavar. Et puis, qu'il se prépare à faire ce cas aussi et évoluer avec les professionnels là-bas au niveau du club. Et puis, ici, au niveau de l'Afrique, vous savez que le sport n'est pas tout à fait.
Voilà, merci Jean-Baptiste. On a des petits soucis avec votre ligne téléphonique qui a tendance à détériorer. Mais vous avez dit, il y a un problème de démoralisation. On a vu les joueurs camerounais qui ont refusé d'embarquer dans l'avion parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas sûrs de toucher leur prime. Il y a l'équipe de balle qui arrive en retard. Il y a aussi la problématique des regroupements de joueurs entre les joueurs locaux, les joueurs professionnels. Chaque fois, les sélectionneurs ont ces difficultés-là. Ce qui fait qu'on n'a pas une homogénéité dans le groupe quand les joueurs se retrouvent en phase finale de la Coupe du Monde. Il faut tenir compte de tout cela. Jean, vous êtes à l'ombre, vous gardez la ligne, le temps que notre invité puisse aussi réagir. Nous faisons l'analyse sur la prestation des équipes africaines à ce niveau du mondial. On sait que deux se sont qualifiés pour le 8e de finale, 3 ont été éliminés, mais à côté de cela, il y a eu beaucoup de problèmes aussi qui ont miné leur prestation, les conflits autour des primes de match, le problème de gestion du capitanat, où il y a eu un problème de mésentente entre des staffs techniques et des joueurs, des mésententes entre des joueurs, autant de problèmes sur lesquels il faudrait se pencher pour améliorer la gestion du football africain. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Pierre Célestin Kabalomolamboui, bonjour. On a eu des petits soucis de téléphone ce matin pour vous joindre depuis le début de cette émission, mais vous êtes là. Alors, nous avons 5 équipes qui ont représenté le continent. 2 se sont qualifiées pour le 8e de finale. C'est déjà un grand pas pour l'Afrique. 3 ont été éliminées, et surtout les 3 sur lesquels beaucoup de personnes comptaient, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais aujourd'hui, le débat, c'est un peu un œil critique sur ce qui s'est passé dans cette phase des groupes et ce qui doit être fait pour arriver vraiment à bien gérer ces équipes nationales dans le mondial. Votre point de vue avant d'écouter peut-être d'autres auditeurs.
Oui, Pierrot et les auditeurs, ma réaction est un peu professionnelle. Je suis blessé dans mon amour propre, c'est vrai, en tant qu'Africain, surtout que lorsqu'il s'agit du football, nous en Afrique, nous prenons l'Afrique comme étant une seule nation. Et nous ne considérons pas les différents niveaux d'évolution, de développement du football à travers le continent. Toutes choses restantes égales par ailleurs, nous pouvons dire, si nous étions professeurs, que l'Afrique, prise dans son entièreté, est presque au niveau de toute la moyenne. Et qu'il y a un progrès, parce que hier, nous avions peut-être une seule nation, qui ou deux, qui arrivaient sporadiquement, mais aujourd'hui, parce que nous avons 5 représentants, nous avons 2 qui passent au second tour. Mais cela ne doit pas nous donner un satisfait tout à fait global. Nous pouvons dire qu'il y a du chemin à faire. Mais cependant, nous devons chercher les causes de ces ratés si nous devons les considérer comme étant des ratés. Moi, je pense qu'en Afrique, la première des choses qu'il faut voir, c'est la philosophie que nous avons du football. Et est-ce que nous pratiquons un football amateur ou nous pratiquons un football professionnel?
Mmh.
Et si nous sommes dans le professionnalisme, parce qu'à ces niveaux de la Coupe du Monde, c'est le professionnalisme, je considère qu'il y a un décalage entre l'état d'esprit de footballeur professionnel et les dirigeants qui les encadrent, et parfois même des entraîneurs. Les dirigeants du football en Afrique, mais ils veulent s'appuyer justement sur les prestations des footballeurs professionnels
pour gagner de l'argent. Mais cela ne peut pas les mettre en bonne intelligence avec ceux qui sont sur le terrain. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de conflits à la veille de la Coupe du Monde. Parce que ça devient juteux pour tout le monde. Et les professionnels qui ont conscience de leur métier, justement parce que cela est devenu leur métier, ils se disent, ah non, nous ne pouvons pas être des fers. C'est du passé, ça. Nous ne pouvons pas travailler pour que des gens qui sont dans leur bureau climatisé, qui ne souffrent pas dans leur musculature, puissent gagner de l'argent sur nos têtes. Regardez ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des conflits la veille. Nous l'avons connu avec les Léopards, qui d'ailleurs, il faut revenir, ils ont dû avoir des accointances avec certains dirigeants vers eux pour gagner de l'argent. Et ils se les sont partagés, évidemment, vous avez vu le résultat. La veille de la Coupe d'Afrique des Nations à l'Afrique du Sud. Voilà ce qu'il y a comme problème primordial, c'est la philosophie. À partir du moment où nous devenons des professionnels, nous avons des structures des professionnels, il faut que tous ceux qui œuvrent dans ces sillages-là deviennent des professionnels. Et l'organisation, les structures et les moyens que l'on met doivent répondre aux exigences du professionnalisme. Mais cela dit, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être éliminé en Coupe du Monde. Vous avez vu que les grands du monde ont été éliminés, les anciens champions du monde. Mais nous devons donner la preuve de toutes nos ressources, de tous les moyens pour être alors éliminés avec les armes à la main. Mais ce que nous nous affichons, parfois c'est scandaleux, notamment pour ce qui est arrivé avec le Cameroun, et peut-être les gens qui sont donnés des coups de poing et tout ça. À la base, vous trouvez qu'il y a l'argent. S'agissant de la Côte d'Ivoire, quand je crois qu'il faut que les gens puissent relativiser un petit peu, la Côte d'Ivoire a donné ce qu'elle pouvait malgré ce qui est arrivé avec l'arbitre. Et quand on a tous les moyens à sa possession, on pouvait même faire face à ce que l'arbitre a fait. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire a aligné une équipe, des gens dont l'avenir était derrière eux. C'est une équipe de gens qui terminaient déjà leur carrière pratiquement. Et il n'y avait plus d'autres ressources quand on se trouve devant des difficultés comme ça. Alors, la Confédération africaine de football doit réviser sa stratégie. La CAF avait commencé par lutter pour avoir 2 représentants, puis 3, et puis nous sommes à 5. Et la CAF s'est dit, nous créons le CHAN pour permettre aux joueurs qui sont en Afrique de monter des niveaux. Et aujourd'hui, regardez ce qui est arrivé à la Coupe du Monde, mais il n'y a eu que 3 joueurs locaux.
Oui.
Évoluant dans leur pays, est-ce que la CAF respecte ses objectifs?
Monsieur Pierre Telesson, on va revenir à vous. Permettez à ce que les 2 derniers auditeurs interviennent aussi rapidement. On va revenir à vous. Il y a Jean qui est à Lubumbashi. Oui, on va rester à Lubumbashi. Il y a 2 auditeurs, Jean et Daniel. Rapidement, Jean, parce que là, on court derrière les temps. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Jean, par rapport à ces prestations?
Oui, d'abord, merci beaucoup Radio Kassé, merci aux auditeurs de la Radio Kassé. Je pense que pour moi, il n'est pas question pratiquement de prendre toutes les équipes africaines en même temps d'égalité. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui ont quand même fait preuve d'un bon football. Là, je parle plus particulièrement du Ghana, parce qu'après tout, on ne peut pas avoir 2-4 équipes championnes, on ne peut pas avoir une seule équipe, donc l'élimination est tout à fait normale aussi dans une compétition de cette hauteur-là. Mais quand même, le Ghana s'est quand même bien défendu, il a défendu un bon football, il y a de l'énergie, il y a de la jeunesse, on peut quand même espérer ultérieurement 4 années, 8 ans après, que cette équipe ghanéenne pourra quand même nous offrir quelque chose de bien, en l'occurrence en 2010, comme ça a été en Afrique du Sud.
Oui.
Mais je pense qu'il y a aussi des équipes qui nous ont vraiment, vraiment déçus, comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon, les autres ont déjà parlé quand même des sélectionneurs qui étaient moins expérimentés. Moi, pratiquement, j'ai eu l'impression d'être en présence d'une équipe où, en tout cas, ça, c'est un engage que moi, les joueurs ont plus d'expérience que leur coach. S'il faut parler de Tite Drogba, de Kolo Touré, Yaya Touré, ce sont des joueurs quand même qui ont plus d'expérience dans le domaine du football. Et on avait leur coach qui venait à peine de commencer sa carrière. Donc, vous voyez que ce n'est toujours pas facile,
Maintenant, les autres, je vais prendre un peu...
Oui, Jean, rapidement, Jean, pour permettre à Daniel aussi d'intervenir, qui est à Lubumbashi avec vous, parce que là, on est coincé, on va parler. Un peu rapidement, oui.
Oui, à ceux qui ont parlé du problème des primes, parce que c'est toujours l'éternel problème des pays africains, le problème des primes. Il y a beaucoup qui ont parlé du patriotisme, mais je pense qu'il ne faut pas aussi être trop rigoureux.
Mm-hmm.
Nous savons, nous tous, dans nos pays, comment ça se passe quand un joueur va dans une telle compétition et qu'on lui donne pas sa prime au préalable, on lui dit la prime viendra après, mais le joueur se retrouve pratiquement dans une situation où on lui réclame presque les résultats. Donc, si on n'obtient pas sa prime avant le match, on n'est jamais sûr de l'emporter.
Oui, oui, oui.
Je dis, si jamais je ne présentais pas un bon résultat, est-ce que j'aurai ma prime en totalité ou est-ce qu'on va la diminuer?
Merci beaucoup Jean, mais là on est vraiment coincé par le temps. Permettons aussi à Daniel qui est à Lubumbashi, s'il peut aussi placer un mot en une minute. Daniel, parce qu'on doit terminer cette émission en une minute, votre point de vue rapidement Daniel.
Merci Thierry pour la parole. Je ne vais pas revenir sur la mauvaise gestion des fédérations africaines qui sont pratiquement à l'image des pays africains.
Mm-hmm.
Mais moi j'allais juste exprimer ma déception par rapport à certaines équipes africaines comme la Côte d'Ivoire, comme... Les Ghana ont pu comprendre parce qu'ils étaient dans une poule de la mort. Mais nous avons des joueurs de qualité internationale comme la Côte d'Ivoire. Donc si vous ne voulez pas jouer, carrément rester en Europe. L'équipe c'est le cœur, c'est là où je voulais. Et l'équipe c'est le cœur.
Mm-hmm.
Soyez l'Algérie, le jeu que l'Algérie a produit. L'Algérie n'a pas un joueur de renommée internationale comme les Ivoiriens, l'image des Togba et autres. Nous, je ne connaissais pas aucun joueur algérien, mais le jeu que l'Algérie a produit marche vite. Et cela montre que les Algériens jouent avec le cœur.
Mm-hmm.
Et à l'image aussi du Costa Rica.
Merci.
Il n'a pas un joueur de renommée, mais les joueurs jouent avec le cœur. Voilà le plus grand problème de notre équipe africaine. Rien ne sert d'avoir des grands noms, mais il faut jouer avec le cœur.
Merci. Merci beaucoup, Daniel. Il faut jouer avec le cœur. Vous avez parlé du Costa Rica. Vous avez parlé, bien sûr, je m'excuse, de l'Algérie. Il n'y a pas de joueurs de renommée. N'est-ce pas? Mais on a vu la capacité de ces joueurs de pouvoir rebondir. Nous revenons à vous, Pierre-Célestin Kabala-Monambouy. On a fait le diagnostic des problèmes. Nous l'avons toujours discuté avec vous dans cette émission. Il faudrait qu'on ait une philosophie vraiment du football. Mais il y a aussi l'avenir prochain pour toutes nos fédérations. C'est la CAN 2015. Il y aura le Mondial. Mais il y a quand même deux équipes qui jouent les demi-finales. Hein. Si on peut placer un mot par rapport à ces équipes, leur chance aussi de pouvoir aller plus loin. Ils vont jouer le 8e des finales plus tôt. Et ça vous permet aussi de conclure cette émission.
Oui, ce que je peux dire, d'abord, je suis particulièrement content de la prestation du Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria est dirigé par un staff technique composé d'Africains. Et ça, c'est déjà un progrès notable qu'il faut noter. Et cela doit donner confiance à tous les Africains qui croient qu'il n'y a que le recours à l'Europe qui est dans ses saluts. Et l'Algérie l'a fait, vous avez vu également ses prestations, et cela nous ramène à reconsidérer certaines conceptions, certaines notions que nous avons, surtout que nous avons l'extraversion de notre pensée.
Mm-hmm.
Et lorsque nous produisons des bons joueurs, nous trouvons qu'il faut qu'ils aillent en Europe pour qu'ils deviennent meilleurs. Mais comment est-ce que l'Européen vient les chercher chez nous? Il faut se poser cette question-là.
Oui.
S'il n'était pas bon à partir de la maison, pourquoi est-ce que l'Europe vient les chercher justement pour les amener en Europe? Et cela doit nous amener à concevoir ce championnat, donc un réseau des compétitions assez relevé au niveau continental, et cela à tous les niveaux, donc le football d'âge. Or, quand nous allons dans les footballs d'âge, qui s'est d'ailleurs bien comporté sur le plan mondial, vous n'avez qu'à voir le palmarès du Ghana, du Nigeria, et même de la Guinée-Bissau, je crois, et de certains pays, et vous allez voir qu'il y a de l'avenir, mais que nous déconsidérons nous-mêmes, parce qu'aussitôt qu'ils deviennent très bons, on les envoie à l'Europe et on perd des âges. Il n'y a pas de constance dans la conception. Donc il faut que le championnat au niveau du continent soit relevé, mais qu'il y ait des clubs professionnels de grande facture, parce que ce sont les clubs qui fournissent les joueurs aux équipes nationales.
Mm-hmm.
Mais lorsque nous n'avons pas de joueurs professionnels de grande facture, et la RDC est en train de tâtonner, vous le savez, nous ne pouvons pas espérer un jour aller à armes égales en Coupe du Monde avec les clubs européens. Parce que là, nous avons des gens préparés de corps et d'esprit à la grande compétition.
Mais quand on regarde la situation du football sur le continent, la gestion des fédérations, des éternels présidents, que ce soit la RDC, la Côte d'Ivoire a le même problème, le Cameroun aussi a des fois le même problème dans la gestion de fédérations. Mais qu'est-ce que la CAF elle-même pense, la manière dont ces sociétaires sont gérés? Parce que c'est de là aussi qu'est pour voir la philosophie, la politique qu'on doit définir pour l'avenir du football africain.
Voilà, Pierrot, là, vous remettez sur le tapis un problème capital. Vous savez, partout ailleurs, on disait que un mandat en sport, c'est du bénévolat. Et ça devait avoir un temps. C'est des gens qui considèrent d'abord le football là-bas, comme un moyen d'éducation et qui eux-mêmes ont le sens de l'éthique et de la démocratie. Or, chez nous, on est en train de fabriquer des droits télé, mais non, ils restent éternellement, mais qui n'apportent rien, comme lorsqu'ils sont plafonnés, ils n'apportent plus rien, mais ils préfèrent se cramponner. Et moi, je crois que ça a quelque peu été favorisé par la FIFA. Je crois que vous avez suivi la réaction de Michel Platini, qui a dit qu'il ne pouvait plus apporter son soutien au président Blatter. C'est parce que, justement, il donne l'exemple de ceux qui se cramponnent. Le président de la CAF lui-même s'est cramponné, il est là, et on estime que même quand on n'a plus rien à donner, on est là parce que, quoi, il n'y a personne qui peut réagir, quoi.
Voilà, merci, merci.
On en a fait un club de copains.
Merci.
C'est un grand problème, et là, on sait tout ce qui est malgestion ou mégestion, tout ça.
Merci, merci beaucoup, Pierre-Célestin Cavalamon-Amboui, de nous avoir accordé de votre temps dans cette émission consacrée, bien sûr, au football. Merci aux auditeurs, vous avez été très nombreux à pouvoir réagir et proposer des pistes de solutions. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo, qui était à la coordination et réalisation. Sylvain Matundu, à la mise en onde de Nicole Ndata, supervisée par les auditeurs présentés par Pierrot et la Meji. Vous allez retrouver cette émission ce soir en rediffusion à 20h30 des 8h de Kinshasa, mais aussi sur le site internet de Radio Capi, www.radiocapi.net. Pour le moment, il me reste à vous souhaiter un bon week-end, mais aussi une bonne fête d'indépendance. Au revoir.